Chapitre 4. Nous, ceux d'Aurel. Dans la même session, la cour martiale qui avait jugé Lanson avait condamné à la peine capitale par pendaison Mikhail Goloubets, surnommé Mirchka le Tzigan, paysan du gouvernement d'Aurel, district d'Ielets. Le dernier crime dont on l'accusait avec preuves à l'appui était un pillage à main armée suivi de l'assassinat de 3 personnes. Quant à son passé, il était inconnu. De vagues indices permettaient de croire que le Tzigan avait pris part à toute une série d'autres meurtres. Avec une sincérité, une franchise absolue, il se qualifiait de brigand et accablait de son ironie ce qui, pour suivre la mode, s'appelait pompeusement expropriateur, et il racontait volontiers dans tous ses détails son dernier crime. Mais dès qu'il touchait au passé, il répondait « Ah, une mendue au vent qui souffle sur les champs !» Et si l'on persistait à l'interroger, le Tzigan prenait un air digne et sérieux. « Nous, ceux d'Aurel, nous sommes tous des têtes brûlées, les pères de tous les voleurs du monde, » disait-il d'un ton posé et judicieux. On l'avait surnommé Tzigan à cause de sa physionomie et de ses habitudes de voler. Il était maigre, étrangement noir. Des taches jaunes se dessinaient sur ses pommettes saillantes comme celles d'un tartare. Il avait une manière chevaline de rouler le blanc de l'œil. Le regard était court et vif, plein de curiosité, effrayant. Les choses sur lesquelles avait passé son coup d'œil rapide avaient perdu on ne sait quoi, s'étaient transformées en lui donnant une partie d'elle-même. On hésitait à prendre une cigarette qu'il avait regardée, comme si elle avait déjà été dans sa bouche. Sa nature extraordinairement mobile faisait que tantôt il semblait se replier, se concentrer tel un mouchoir tordu, ou tantôt se répandre comme en une gerbe d'étincelles. Il buvait de l'eau presque par saut, comme un cheval. Quand les juges le questionnaient, il répondait en levant vivement la tête, sans hésiter, avec satisfaction même, « C'est vrai !» Parfois, il appuyait, « C'est vrai !» Brusquement, il sauta sur ses pieds et demanda au président, « Permettez-moi de siffler. »« Pourquoi cela ?» fit celui-ci étonné. « Les témoins disent que j'ai donné le signal à mes camarades. Je vous montrerai comme je l'ai fait. C'est très intéressant. » Un peu déconcerté, le président accorda l'autorisation demandée. Le Tzigan plaça vivement dans sa bouche 4 doigts, 2 de chaque main. Il roula les yeux avec férocité et l'air inanimé de la salle d'audience fut déchiré par un vrai sifflement sauvage. Il y avait de tout dans ce bruit perçant, quasi humain, quasi animal. Et l'angoisse mortelle de celui qu'on tue et la joie sauvage de l'assassin. Une menace, un appel et la solitude tragique, l'obscurité d'une nuit d'automne pluvieuse. Le président agita la main. Le Tzigan s'arrêta docilement. Pareil à un artiste qui vient de jouer un air difficile au succès assuré, il s'assit, essuya ses doigts mouillés à sa capote de prisonnier et regarda les assistants d'un air satisfait. « Quel brigand !» s'exclama l'un des juges en se frottant l'oreille. Mais un autre, qui avait des yeux de tatare pareils à ceux du Tzigan, regarda d'un air rêveur au loin, au-dessus du brigand. Il sourit et répliqua « C'était effectivement intéressant. » Sans nul remords, la conscience, les juges condamnèrent le Tzigan à mort. « C'est juste, » dit le Tzigan lorsque la sentence fut prononcée. Et se tournant vers un soldat de l'escorte, il l'ajouta par bravade « Eh bien, allons-nous-en, imbécile !» Et tiens bien ton fusil, sinon je te le prends. Le soldat le regarda d'un air sérieux et craintif. Il échangea un coup d'œil avec son camarade et vérifia la platine de son arme. L'autre fit de même. Et pendant tout le trajet jusqu'à la prison, il sembla aux soldats qu'ils ne marchaient pas mais qu'ils volaient. Ils étaient si absorbés par le condamné qu'ils n'avaient pas conscience de la route, ni du temps, ni d'eux-mêmes. Comme les Hanson, Mishka le Tzigane resta 17 jours en prison avant d'être exécuté. Et les 17 journées passèrent aussi rapidement qu'un seul jour, remplies d'une seule et unique pensée, celle de la fuite, de la liberté, de la vie. L'esprit turbulent et incoercible du Tzigane, étouffé par les murailles, les grillages et la fenêtre opaque au travers de laquelle on ne voyait rien, employait toute sa force à incendier le cerveau de Mishka. Comme dans une vapeur d'ivresse, des images vives mais inachevées tourbillonnaient, se heurtaient, se confondaient dans sa tête. Elles passaient avec une rapidité aveuglante et irrésistible, et elles tendaient toutes au même but, la fuite, la liberté, la vie. Pendant des heures entières, les narines écarquillées comme un cheval, le Tzigane flairait l'air. Il lui semblait qu'il sentait l'odeur du chanvre et de l'incendie, de la fumée opaque. Ou bien il tournait comme une coupie dans sa tsoulil, examinant les murs, les tâtant du doigt, mesurant, perçant le plafond du regard, sciant mentalement les grillages. Par son agitation, il torturait le soldat qui le surveillait par le guichet. À plusieurs reprises, celui-ci avait menacé de faire feu. Pendant la nuit, le Tzigane dormait profondément, presque sans remuer en une immobilité invariable, mais vivant, tel un ressort momentanément inactif. Mais dès qu'il sautait sur ses pieds, il recommençait à combiner, à tâter, à étudier. Il avait toujours les mains sèches et chaudes. Parfois, son cœur se figeait brusquement, comme si on eût placé dans sa poitrine un nouveau bloc de glace qui ne fondait pas et qui faisait courir sur la peau un frisson continu. À ces moments-là, le teint déjà si foncé de Mishka devenait plus sombre encore et prenait la nuance bleu-noir de la fonte. Un tic bizarre s'empara alors de lui, comme s'il avait mangé un plat beaucoup trop sucré. Il se léchait constamment les lèvres. Puis, avec un sifflement, les dents serrées, il crachait à terre la salive ainsi amassée dans sa bouche. Il n'achevait plus les mots, les pensées couraient si vite que la langue ne parvenait plus à les suivre. Le surveillant en chef entra un jour dans sa cellule en compagnie du soldat de garde. Il loucha sur le sol constellé de crachats et dit d'un air rude « Voyez-vous comme il a sali sa cellule !» Le Tzigane répliqua vivement « Et toi, gros museau, tu as sali toute la terre, je t'ai pas rien dit, et pourquoi m'ennuies-tu » Avec la même rudesse, le surveillant lui proposa de faire l'office du bourreau. Le Tzigane découvrit les dents et se mit à rire. « On n'en trouve point, c'est pas mal. Allez donc pendre les gens. Il y a des coups, il y a des cordes et personne pour pendre. Par Dieu, ce n'est pas mal. On te laissera la vie pour récompense. Je le pense bien. C'est pas quand je serai mort que je pourrai faire le bourreau. » Alors, est-ce oui ou non ? Mais comment pend-on chez vous ? On étouffe probablement les gens en cachette. Non, on n'est pas en musique, rétorqua le surveillant. Imbécile, oui, bien entendu, il faut de la musique, comme celle-ci. Et il se mit à chanter un air entraînant. Mais tu es venu complètement fou, mon ami, dit le surveillant. Allons, parle sérieusement, que décides-tu ? Le Tzigane découvrit les dents. Es-tu pressé? Allez, reviens, je te le dirai. Et le chaos des images inachevées qui accablaient le Tzigane s'augmenta d'une nouvelle idée. Comme il serait agréable d'être le bourreau. Il se représentait nettement la place noire du monde, un échafaud sur lequel lui, le Tzigane, se promenait en chemise rouge, la hache à la main. Le soleil éclaire les têtes, joue gaiement sur le métal de la hache. Tout est si joyeux, si somptueux, que même celui à qui on va couper la tête sourit. Derrière la foule, on voit les chars et les naseaux, des chevaux. Les paysans sont venus en ville à cette occasion. Plus loin encore, les champs. Ah! Le Tzigane se lécha les lèvres et cracha à terre. Soudain, il lui sembla qu'on venait de lui enfoncer sa casquette de fourrure jusque sur la bouche. Tout devint sombre, il haleta, et son cœur se transforma en un bloc de glace, tandis que de petits frissons couraient sur son corps. Deux fois encore, le surveillant revint. Les dents découvertes, le Tzigane lui répondit: Es-tu pressé, mais reviens encore une fois! Enfin, un jour, le geôlier lui cria en passant devant le guichet: Tu as manqué l'occasion, vilain corbeau, on en a trouvé un autre. Que le diable t'emporte, va faire le bourreau toi-même, répliqua le Tzigane. Et il cessa de rêver aux splendeurs de ce métier. Mais vers la fin, plus la date de l'exécution se rapprochait, et plus l'impétuosité des images déchirées devenait insupportable. Le Tzigane aurait voulu attendre, s'arrêter, mais le torrent furieux l'emportait sans qu'il pût se retenir à quoi que ce fût, car tout tournait. Et son sommeil devint agité. Il eut des visions nouvelles, déformées, mal équarries, comme des morceaux de bois enluminés, et encore plus impétueuses que les pensées. Ce n'était plus un torrent, mais une chute continuelle d'une hauteur infinie, un vol en tourbillon à travers le monde entier des couleurs. Naguère, le Tzigane ne portait qu'une moustache assez soignée. En prison, il avait dû laisser pousser sa barbe, qui était courte, noire, piquante, et lui donnait l'air fou. En effet, le Tzigane perdait l'esprit par moments. Il tournait autour de sa cellule sans en avoir conscience, en continuant à tâter les murs crépis et rugueux. Il buvait toujours beaucoup d'eau, comme un cheval. Un soir, alors qu'on allumait les lampes, le Tzigane se mit à quatre pattes au milieu de sa cellule et poussa un hurlement de loup. Très sérieux, comme s'il accomplissait un acte indispensable et important. Il aspirait l'air à plein poumon, puis le chassait lentement, en un hurlement prolongé et tremblant. Et les paupières froncées, il s'écoutait avec attention. Le tremblement même de la voix semblait un peu affecté. Il ne criait pas d'une manière indistincte. Il faisait résonner chaque note à part dans ce cri de fauve, plein d'une souffrance et d'une terreur indicibles. Soudain, il s'interrompit, resta silencieux pendant quelques minutes, sans se redresser, et il se mit à chuchoter comme s'il parlait au sol: Chers amis, bons amis, chers amis. Bons amis, amis, mes amis. Il disait un mot et l'écoutait. Il sauta sur ses pieds et pendant une heure entière, il proféra sans s'arrêter les pires imprécations. Allez au diable, canaille! Hurlait-il en roulant ses yeux tout injectés de sang. S'il faut que je sois pendu, pendez-moi au lieu de. En gredin! Blanc comme Morcret, Le soldat pleurait d'angoisse et de peur. Il heurtait le canon de son fusil contre la porte et criait d'une voix lamentable. « Je te fusillerai, pardieu, tu entends, je te fusillerai !» Mais il n'osait pas tirer. On ne faisait jamais feu sur des condamnés à mort, sauf en cas de révolte. Et le zigane grinçait des dents, jurait et crachait. Son cerveau, placé sur la limite étroite qui sépare la vie de la mort, se fragmentait comme un morceau d'argile desséché. Lorsqu'on vint pendant la nuit pour le mener au supplice, il se ranima. Ses joues se colorèrent un peu. Dans ses yeux, la ruse habituelle, un peu sauvage, étincela de nouveau. Et il demanda à un fonctionnaire « Qui nous pendra, le nouveau ? Il n'en a pas encore l'habitude. »« Oh, vous n'avez pas à vous inquiéter de cela, » répondit le personnage interpellé. « Comment pas m'inquiéter ? Ce n'est pas votre noblesse qu'on va pendre, mais moi. Au moins, n'épargnez pas le savon sur le nœud coulant, c'est l'État qui le paye. Je vous prie de vous taire, parce que celui mange tout le savon de la prison. Voyez comme son visage brille, » continua le zigane en désignant le surveillant. « Silence ! N'épargnez pas le savon !» Il se mit à rire. Tout à coup, ses jambes s'engourdirent. Pourtant, lorsqu'il fut arrivé dans la cour, il put encore crier « Hé, vous autres, faites avancer mon coupé !» Chapitre 5 Embrasse-le et tais-toi. Le verdict concernant les 5 terroristes a été prononcé dans sa forme définitive et confirmé le même jour. On n'a pas dit aux condamnés quand aura lieu le supplice, mais ils ont prévu qu'on les pendra, selon la coutume, la même nuit ou la nuit suivante au plus tard. Lorsqu'on leur a offert de voir leur famille le lendemain, ils ont compris que l'exécution était fixée à vendredi au point du jour. Tania Kovalchuk n'avait pas de proches parents. Elle ne se connaissait que quelques parents lointains habitant la petite Russie et qui probablement ne savaient rien du procès ni du verdict. Et Moussaïa et Werner, n'ayant pas révélé leur identité, ne tenaient pas à voir les leurs. Seuls Serge Golovin et Vassili Kachilin devaient avoir leur famille. Tous deux, avec effroi, pensaient à cette entrevue prochaine, mais ils ne purent se décider à refuser une dernière conversation, un dernier baiser. Serge Golovin pensait tristement à cette visite. Il aimait beaucoup son père et sa mère. Il les avait vus tout récemment, et il était plein de terreur à la pensée de ce qui allait se passer. Le supplice lui-même, dans toute sa monstruosité, dans sa folie déconcertante, se dessinait plus facilement dans son imagination que ces quelques minutes courtes, incompréhensibles, hors du temps, hors de la vie. Que faire? Que dire? Les gestes les plus simples, les plus coutumiers? Serrer une main, embrasser, dire « Bonjour, père !» lui paraissait affreux dans leur insignifiance monstrueuse, inhumaine, insensée. Après le verdict, on ne réunit pas les condamnés, comme Tania le supposait, dans la même cellule. Toute la matinée, jusqu'à l'heure où il reçut ses parents, Serge Golovin se promena de long en large dans son cachot, en tourmentant sa barbiche, les traits pitoyablement contractés. Parfois, il s'arrêtait subitement, aspirait l'air à plein poumon, respirant comme un nageur qui resta trop longtemps sous l'eau. Mais comme il était bien portant, que sa jeune vie était solidement implantée en lui, même en ces minutes de souffrance atroce, le sang jouait sous sa peau, colorait ses joues, Ses yeux bleus conservaient leur éclat habituel. Tout se passa beaucoup mieux que Serge ne le supposait. Ce fut son père, le colonel en retraite, Nicolas Sergeïevitch Golovin, qui pénétra le premier dans la pièce où les visiteurs étaient reçus. Tout en lui était blanc de la même blancheur, visage, cheveux, barbe, mains. Son vieux vêtement bien brossé sentait la benzine. Ses épaulettes paraissaient neuves. Il entra d'un pas ferme, mesuré, en se redressant. Il dit à haute voix, en tendant sa main blanche et sèche, « Bonjour, Serge !» Derrière lui, la mère venait à petits pas. Elle avait un sourire étrange, mais elle serra aussi la main de son fils et répéta à haute voix, « Bonjour, mon petit Serge !» Elle l'embrassa et s'assit sans rien dire. Elle ne se jeta pas sur son fils, elle ne se mit pas à pleurer ou à crier, comme Serge s'y attendait. Elle l'embrassa et s'assit sans parler. Elle arrangea même d'une main tremblante les plis de sa robe de soie noire. Serge ignorait que le colonel avait passé toute la nuit précédente à combiner cette entrevue. Nous devons alléger les derniers moments de la vie à notre fils et non pas aller lui rendre plus pénible, avait décidé le colonel. Et il avait soigneusement pesé chaque phrase, chaque geste de la visite du lendemain. Mais parfois il s'embrouillait, il oubliait ce qu'il était parvenu à préparer, et il pleurait amèrement, affaissé dans le coin de son canapé. Le lendemain matin, il avait expliqué à sa femme ce qu'elle devait faire. « Surtout, embrasse-le et tais-toi !» lui répétait-il. « Tu pourras parler après, un peu après, mais quand tu l'embrasseras, tais-toi !» Ne parle pas tout de suite après l'avoir embrassé, comprends-tu? Sinon, tu diras ce qu'il ne faut pas dire. Je comprends, Nicolas Sergeïevitch, répondit la mère en pleurant. Et ne pleure pas, que Dieu t'en préserve, ne pleure pas. Tu le tueras si tu pleures, mère. Et pourquoi pleures-tu toi-même? « Mais comment ne pleurait-on pas avec vous autres? Il faut pas que tu pleures, entends-tu? »« Bien, Nicolas Sergeïevitch. » Ils montèrent en fiacre et partirent, silencieux, voûtés, vieillis. Ils étaient plongés dans leurs pensées, et autour d'eux la ville grondait gaiement. On était au carnaval, les rues étaient pleines d'une foule bruyante. On s'assit. Le colonel prit une attitude convenue, la main droite dans la fente de sa redingote. Serge resta assis un instant. Son regard rencontra le visage ridé de sa mère. Il se leva tout à coup. « Assieds-toi, mon petit Serge !» supplia la mère. « Assieds-toi, Serge !» répéta le père. Ils gardèrent le silence. La mère avait un sourire étrange. Peu de démarches nous avons faites pour toi, Serge. Le père. Mais c'était inutile, petite mère. Et le colonel dit avec fermeté. Nous devions le faire pour que tu ne penses pas que tes parents t'avaient abandonné. Ils se turent de nouveau. Ils avaient peur de prononcer une parole, comme si chaque mot de la langue avait perdu son sens propre et ne signifiait plus qu'une chose, la mort. Serge regardait la petite redingote proprette à l'odeur de benzine et pensa « il n'a plus d'ordonnance. Il a donc nettoyé son habit lui-même. » Comment n'ai-je jamais remarqué quand il nettoyait son habit? Oh, ce devait être le matin, probablement. Soudain, il demanda « Et ma sœur, elle va bien ?»« Onidochka ne sait rien !» répondit vivement la mère. Mais le colonel l'interrompit avec sévérité. « À quoi bon mentir ? Elle a lu les journaux. » « Donc que serve, sache que enfin, tous les siens ont pensé et... » Il ne put continuer et s'arrêta. Soudain, le visage de la mère se tira, les traits se brouillèrent et devinrent sauvages. Les yeux décolorés s'écarquillèrent follement. La respiration devint de plus en plus haletante et forte. « répéta-t-elle en s'embouvoir les lèvres. « Petite mère !» Le colonel fit un pas. Tremblant tout entier, sans savoir combien il était affreux dans sa blancheur cadavérique, dans sa fermeté désespérée et voulue, et il dit à sa femme « Mais tais-toi, ne le torture pas !» Ne le torture pas, ne le torture pas, il doit mourir, ne le torture pas. Effrayée, elle se taisait déjà, et il continua encore à répéter les poings tremblants serrés sur sa poitrine. Ne le torture pas. Puis il fit un pas en arrière, remit la main dans la fente de sa redingote, avec une expression de calme forcé, il demanda à haute voix les lèvres blêmes « Quand ?»« Demain au matin, » répondit Serge. La mère regardait à terre, en se mordant les lèvres comme si elle n'entendait rien. Et il sembla qu'elle laissait tomber ces paroles simples et étrangères, tout en continuant à se mordre les lèvres. « Ninochka m'a dit de t'embrasser, mon petit Serge. »« Embrasse-la de ma part, » dit le condamné. « Rien, les Chvostov te font saluer. »« Qui est-ce ? Ah oui !» Le colonel l'interrompit. « Eh bien, il faut partir. Lève-toi, mère, il le faut. » Les deux hommes soulevèrent la femme qui défaillait. « Dis-lui adieu, » ordonna le colonel, « bénis-le. » Elle fit tout ce qu'on lui dit. Mais tout en donnant à son fils un court baiser et en faisant sur lui le signe de croix, elle hochait la tête et répétait distraitement « Non, c'est pas cela, non, non, c'est pas cela. » « Adieu, Serge, » dit le père. Ils se serrèrent la main et échangèrent un baiser bref, mais fort. « Tu ?» commença Serge. « Eh bien ?» demanda le père d'une voix saccadée. « Non, pas comme cela, non, non. Comment dirais-je ?» répétait ta mère en hochant la tête. Elle s'était de nouveau assise et chancelait. « Tu !» reprit Serge. Soudain, son visage prit une expression lamentable et il grimaça comme un enfant et des larmes remplirent ses yeux. À travers leurs facettes étincelantes, il vit tout près de lui le visage pâle de son père qui pleurait aussi. « Père, mais tu es un homme fort !» « Que dis-tu ? Que dis-tu ? » dit le colonel effaré. Et soudain, comme s'il se fût cassé, il tomba la tête sur l'épaule de son fils. Et tous deux, ils couvraient de baisers ardents, l'un des cheveux légers, l'autre une capote de prisonnier. « Et moi ?» demanda brusquement une voix rauque. Ils regardèrent. La mère était debout et la tête rejetée en arrière. Elle les considérait avec colère, presque avec haine. « Mais qu'as-tu, mère ? » s'écria le colonel. Et moi ? Répéta-t-elle en hochant la tête avec une énergie insensée. Vous vous embrassez, et moi ? Vous êtes des hommes, n'est-ce pas ? Et moi ? Et moi ? Mère ! Et Serge se jeta dans ses bras. Les derniers mots du colonel furent « Je te bénis pour la mort, Serge. Meurs avec courage, comme un officier. » Et ils partirent. De retour dans sa cellule, Serge se coucha sur son lit de camp, le visage tourné vers le mur pour que les soldats ne le vissent pas, et il pleura longtemps. Seule la mère de Vassili Kachinine vint le visiter. Le père, un riche marchand, avait refusé de l'accompagner. Lorsque la vieille entra, Vassili se promenait dans sa cellule. Malgré la chaleur, il tremblait de froid. La conversation fut courte et pénible. « Vous n'auriez pas dû venir, mère. Pourquoi vous tourmentez, vous et moi ?» Mais pourquoi tout cela, Vassia? Pourquoi as-tu fait cela, mon Dieu, mon fils Dieu? Et la vieille femme se mit à pleurer en séchant ses larmes avec son fichu de soie noire. Habitués comme ils l'étaient, ses frères et lui, à bousculer leur mère, simple femme qui ne les comprenait pas, il s'arrêta et tout en grelottant lui dit d'un air courroucé. C'est ça, je le savais. Vous ne comprenez rien, maman, rien. Mais c'est bien, mon fils. Qu'as-tu ? As-tu froid ? Oui, j'ai froid, répondit Vassili. Et il se mit à marcher de nouveau en jetant du même air irrité des regards obliques à la vieille. Tu as froid, mon fils. Ha ! Vous parlez de froid, mais bientôt. Il eut un geste désespéré. La mère se remit à sangloter. « Mais je lui ai dit à ton père, va le voir, c'est ton fils, ta chair, donne-lui un dernier adieu, il n'a pas voulu. Que le diable l'emporte, ce n'est pas un père. Toute sa vie, ce fut une canaille, il est resté. Oh, Vassia, c'est ton père pourtant. » Et la vieille femme hocha la tête d'un air de reproche. C'était ridicule et terrible. En face de la mort, cette conversation mesquine et inutile les retenait. En pleurant presque, tant la chose était triste, Vassili cria « Comprenez donc, mère, on va me pendre, me pendre. Comprenez-vous, oui ou non ?» Mais pourquoi as-tu tué, toi ? Cria-t-elle. Mon Dieu, que dites-vous ? Les bêtes mêmes ont des sentiments. Suis-je votre fils ou non ? Il s'assit et pleura. Sa mère pleurait, mais dans l'impossibilité où ils se trouvaient de communier tous deux dans la même affection, afin de l'opposer à la terreur de la mort prochaine, il pleurait des larmes froides qui ne réchauffaient pas le cœur. Mais tu me demandes si je suis ta mère? Tu me fais des reproches et moi, je suis devenue toute blanche ces derniers jours. C'est bien, dit Serge, pardonnez-moi, adieu. Embrassez mes frères de ma part. Mais ne suis-je pas ta mère? Est-ce que je ne souffre pas pour toi ? Elle partit enfin. Elle pleurait tant qu'elle ne voyait plus son chemin. Et à mesure qu'elle s'éloignait de la prison, ses larmes devenaient plus abondantes. Elle retourna sur ses pas, mais elle s'égara dans cette ville où elle était née, où elle avait grandi, où elle vieillissait. Elle entra dans un petit jardin abandonné et s'assit sur un banc humide. Et subitement, elle comprit. C'était demain qu'on allait pendre son fils. Pas d'un seul coup, elle se redressa, voulut crier, courir, mais soudain la tête lui tourna et elle s'abattit. L'allée blanche de givre était humide et glissante. La vieille femme ne put se relever. Elle se dressait sur ses poignets et retombait de nouveau. Le fichu noir glissa de sa tête, découvrant les cheveux d'un gris sale. Il lui sembla qu'elle fêtait la noce de son fils. Oui, on venait de le marier. Elle avait bu un peu de vin, elle était légèrement ivre. « Oh, je ne puis plus, mon Dieu, je ne puis plus !» Et, la tête vacillante, elle se disait qu'elle avait trop bu, et elle rampait sur le sol humide. Mais on lui faisait boire du vin, encore, encore du vin. Et de son cœur montait le rire des ivrognes, et l'envie de se livrer à une danse sauvage. Mais on portait toujours des coupes à ses lèvres, l'une après l'autre, l'une après l'autre. Chapitre 6. Les heures s'enfuient. Dans la forteresse où les terroristes condamnés étaient enfermés, il y avait un clocher avec une antique horloge. Chaque heure, chaque demi-heure, chaque quart d'heure, l'air retentissait d'un son infiniment triste, comme le cri lointain et plaintif des oiseaux de passage. Le jour, cette musique bizarre et désolée se perdait dans le fruit de la ville, de la grande rue animée qui passait devant la forteresse. Les tramways grondaient, les sabots des chevaux résonnaient, les automobiles trépidantes jetaient au loin leurs appels rauques. Le carnaval étant proche, les paysans des environs étaient venus en ville pour gagner quelque argent comme cocher le fiacre. Les grelots des chevaux petits ruissiens tintaient bruyamment. Les conversations étaient gaies et sentaient l'ivresse, de vraies conversations de fête. Le temps était à l'unisson. Le printemps avait amené le dégel et des mares troubles mouillaient la chaussée. Les arbres des squares avaient soudain noirci. Par larges bouffées humides, un vent tiède venait de la mer, un air léger et frais qui semblait partir en un vol joyeux vers l'infini. De nuit, la rue se taisait sous la clarté des grands soleils électriques. L'immense forteresse aux murailles lisses plongeait dans l'obscurité, dans le silence. Une barrière de calme et d'ombre la séparait de la ville continuellement vivante. Alors on entendait sonner les heures. Étrangère à la terre, une mélodie étrange naissait et mourait, lentement, tristement. Comme de grosses gouttes de verre transparentes, les heures et les minutes tombaient d'une hauteur incommensurable dans une vasque métallique qui vibrait doucement. Parfois, c'était des oiseaux qui passaient. Dans les cellules, cette sonnerie seule arrivait jour et nuit. Elle pénétrait au travers du toit, au travers des épaisses murailles de verre. Elle seule rompait le silence. Parfois, on l'oubliait, on ne l'entendait pas. Parfois, on l'attendait avec désespoir. On ne vivait que par le son et pour le son, car on avait appris à se défier du silence. La prison était réservée aux criminels de marque. Son règlement spécial, rigoureux, était ferme et rude comme l'angle des murailles. S'il y a de la noblesse dans la cruauté, le silence solennel, sourd, mort, qui saisissait tout souffle, tout frôlement, était noble. Dans ce silence, que traversait le tintement désolé des minutes qui s'enfuient, trois hommes et deux femmes, séparés du monde, attendaient la venue de la nuit, de l'aurore et du supplice. et chacun s'y préparait à sa manière. Pendant toute sa vie, Tania Kowalchuk n'avait pensé qu'aux autres. C'était encore pour les camarades qu'elle souffrait et se torturait. Elle ne se représentait la mort que parce que celle-ci menaçait Serge Golovin, Moussia et les autres. Mais elle ne pensait pas qu'elle aussi serait exécutée. Comme pour se récompenser de la fermeté factice qu'elle avait montrée devant les juges, elle pleurait pendant des heures entières. Ainsi font les vieilles femmes qui ont beaucoup souffert. En pensant que Serge manquait peut-être de tabac, que Werner pouvait être privé du thé qu'il affectionnait, et ceci au moment où ils allaient mourir, elle souffrait peut-être autant qu'à l'idée du supplice. Le supplice était quelque chose d'inévitable, d'accessoire même, qui ne valait pas la peine d'être pris en considération. Mais qu'un homme emprisonné manquât de tabac la veille même de son exécution, oh, c'était une idée absolument insupportable. Évoquant les doux souvenirs de leur vie commune, elle se lamentait sur l'entrevue de Serge et de ses parents. Elle éprouvait pour Moussia une pitié particulière. Depuis longtemps, il lui semblait à tort que Moussia aimait Werner. Elle faisait pour eux des rêves beaux et lumineux. Avant son arrestation, Moussia portait un anneau d'argent sur lequel étaient gravés un crâne et un tibia entouré d'une couronne d'épines. Souvent, Tania Kowalchuk avait regardé cette bague avec douleur, comme un symbole de renoncement. Demi-sérieuse, demi-plaisante, elle avait demandé à Moussia de l'enlever. « Non, Tania, je ne te la donnerai pas. Tu en auras bientôt une autre au doigt. » Ses camarades pensaient toujours qu'elle allait prochainement se marier, ce qui l'offensait fort. Elle ne voulait pas de mari. Et en se rappelant ses conversations avec Moussia, en se disant que Moussia était en effet sacrifiée, Tania, pleine de pitié maternelle, sentait les larmes l'étouffer. Chaque fois que l'horloge sonnait, elle levait son visage couvert de pleurs et tendait l'oreille. Comment accueillait-on dans les autres cellules cet appel plaintif et opiniâtre de la mort? Chapitre 7. Il n'y a pas de mort. Et Moussia était heureuse. Les bras croisés derrière le dos, revêtue d'une robe de prisonnière trop grande pour elle et qui la faisait ressembler à un adolescent affublé d'un costume d'emprunt, elle allait et venait dans sa cellule, à pas égaux, sans se lasser. Elle avait retroussé les manches trop longues de sa robe, et ses bras minces, amaigris, ses bras d'enfant, sortaient des larges entournures comme des tiges de fleurs placées dans une cruche malpropre et commune. La rudesse de l'étoffe irritait la peau du cou blanc et gracile. Parfois, d'un mouvement des deux mains, Moussia dégageait sa gorge et tâtait avec précaution l'endroit où la peau lui cuisait. Moussia marchait à grands pas, et elle se justifiait en rougissant de ce qu'on lui avait assigné à elle, si jeune, si humble, qui avait fait si peu de choses, la mort la plus belle réservée jusqu'alors aux martyrs. Il lui semblait qu'en mourant à la potence, elle affichait une prétention de mauvais goût. À la dernière entrevue, elle avait prié son avocat de lui procurer du poison, mais aussitôt elle y avait renoncé. N'allait-on pas penser qu'elle agissait ainsi par peur ou par ostentation? Au lieu de mourir modestement, inaperçue, ne causerait-elle pas encore du scandale? Et elle avait ajouté vivement, « Non, 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 c'est inutile. » Maintenant, son unique désir était d'expliquer, de prouver qu'elle n'était pas une héroïne, qu'il n'était pas effroyable de mourir et qu'il ne fallait ni la plaindre, ni se tourmenter pour elle. Comme si on l'avait vraiment accusé, Moussia cherchait des excuses, des prétextes, de nature à exalter son sacrifice et à lui donner une valeur réelle. En effet, se disait-elle, je suis jeune, j'aurais pu vivre longtemps encore, mais... De même que la lueur d'une bougie s'efface dans le rayonnement du soleil levant, la jeunesse et la vie lui paraissaient ternes et sombres devant l'auréole magnifique et lumineuse qui allait couronner sa modeste personne. Est-ce possible, se demande Moussia, toute confuse, est-il possible que je vaille qu'on me pleure? Et une joie indicible l'envahit. Il n'y a plus de doute, on l'a prise dans le giron. Elle a le droit de figurer parmi les héros qui, de tout pays, s'en vont vers le ciel au travers des flammes et des exécutions. Quelle paix sereine, quel bonheur infini! Immatérielle, elle croit planer dans une lumière divine. À quoi Moussia pensait-elle encore? Oh, à bien des choses! Car pour elle, le fil de la vie n'était pas coupé par la mort, mais continuait à se dérouler d'une manière calme et régulière. Elle pensait à ses camarades, à ceux qui, de loin, étaient angoissés par l'idée de son supplice prochain, à ceux qui, plus près, iraient avec elle à la potence. Elle était étonnée de ce que Vassili fut en proie à une telle peur, lui qui avait toujours été brave. Le mardi matin, alors qu'ils s'étaient préparés à tuer, à mourir eux-mêmes, Tania Kovalchuk avait tremblé d'émotion. Il avait fallu l'éloigner, tandis que Vassili plaisantait, riait, se mouvait au milieu des bombes avec si peu de précaution que Werner lui avait dit d'un ton sévère « Ah, il faut pas jouer avec la mort !» Et pourquoi donc Vassili avait-il peur maintenant? Et cette terreur incompréhensible était si étrangère à l'âme de Moussia qu'elle cessa bientôt d'y penser et d'en chercher la cause. Soudain, elle eut une envie folle de voir Serge Golovin et de rire avec lui. Peut-être aussi sa pensée ne voulait-elle pas s'arrêter longtemps sur le même sujet, comme un oiseau léger qui plane devant les horizons infinis et pour lequel l'espace tout entier, l'azur caressant et tendre, est accessible. Les heures sonnaient, les pensées se fondaient dans cette symphonie harmonieuse et lointaine. Les images fuyantes devenaient une musique. Il semblait à Moussia qu'elle voyageait pendant une nuit tranquille, sur une route large et douce, les ressorts de la voiture tressautaient faiblement. Tous les soucis avaient disparu. Le corps fatigué se dissolvait dans les ténèbres. Joyeuse et lasse, la pensée créait paisiblement de vives images et s'enivrait de leur beauté. Moussia se rappela trois camarades qui avaient été pendus récemment. Leurs visages étaient illuminés et proches, plus proches que ceux des vivants. Ainsi, le matin, on pense gaiement aux amis hospitaliers qui vous recevront le soir, le sourire aux lèvres. À force de marcher, Moussia se sentit très fatiguée. Elle se coucha avec précaution sur le lit de camp et continua à rêver, les paupières à demi closes. Est-ce bien la mort? Mon Dieu, qu'elle est belle! Ou est-ce la vie? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais voir et entendre. Depuis les premiers jours de son emprisonnement, elle était en proie à des hallucinations. Elle avait l'oreille très musicale. Affinée encore par le silence, son sens auditif rassemblaient les échos les plus ténus de la vie. Le pas des sentinelles dans le corridor, le tintement de l'horloge, le chuchotement du vent sur le toit de zinc, le grincement d'une lanterne, tout cela se fondait pour elle en une vaste et mystérieuse symphonie. Au commencement, ces hallucinations effrayaient Moussaïa, qui les chassait comme des manifestations morbides. Puis elle comprit qu'elle était bien portante, qu'il n'y avait là aucun symptôme pathologique, alors elle ne résista plus. Mais voici qu'elle entendait très nettement le fracas d'une musique militaire. Étonnée, elle ouvrit les yeux, leva la tête. Par la fenêtre, elle vit la nuit. L'horloge sonna. Encore, pensa-t-elle, sans se troubler en fermant les paupières. Et aussitôt, la musique recommença. Moussia distinguait nettement le pas des soldats tournant l'angle de la prison. C'était un régiment tout entier qui passait sous ses fenêtres. Les bottes scandaient le rythme de la musique sur la terre gelée. Une, deux, une, deux. Et parfois, le bruit, le cuir d'une botte craquait. Un pied glissait et se raffermissait aussitôt. La musique se rapprochait. Elle jouait une marche triomphale, bruyante et entraînante, que Moussia ne connaissait pas. Oh, il y avait probablement une fête dans la forteresse. Les soldats sont sous les fenêtres et la cellule se remplit de sons joyeux, cadencés et harmonieux. Une grande trompette de cuivre lance des notes fausses. Elle n'est pas en mesure. Tantôt elle avance, tantôt elle retarde d'une manière ridicule. Moussia se représente le petit soldat qui joue de cette trompette avec un air appliqué, et Moussia rit. Le régiment a passé, le bruit des pas va en mourant. Une, deux, une, deux. Et de loin, la musique est encore plus belle et plus gaie. Plusieurs fois encore, la trompette retentit à contre-temps, de sa voix mélancolique, métallique, sonore et gaie, et tout s'éteint. De nouveau, les heures sonnent au clocher. De nouvelles formes viennent, qui se penchent sur elle, l'entourent d'un nuage transparent et l'élèvent très haut, là où planent les oiseaux de proie. À gauche, à droite, en haut, en bas, partout des oiseaux crient comme des héros. Ils appellent, ils avertissent, ils déploient leurs ailes et l'immensité les soutient. Et sur leur poitrine gonflée qui fend l'air, se reflète l'azur étincelant. Les battements du cœur de Moussia deviennent de plus en plus égaux, sa respiration de plus en plus calme et paisible. Elle s'endort, son visage est pâle, ses traits tirés, ses yeux cernés. Sur ses lèvres, un sourire. Demain, quand le soleil se lèvera, ce visage intelligent et fin sera déformé par une grimace qui n'aura plus rien d'humain. Le cerveau sera inondé d'un sang épais, et les yeux vitrifiés sortiront des orbites. Mais aujourd'hui, Moussia dort tranquille et sourit dans son immortalité. Moussia dort. Et la prison continue à vivre sa vie spéciale, aveugle, vigilante comme une inquiétude perpétuelle. On marche, on chuchote, un fusil résonne. Il semble que quelqu'un crie. Est-ce vérité ou hallucination? Le guichet de la porte s'abaisse sans qu'on l'entende. Dans l'ouverture noire apparaît une sinistre figure barbue. Longtemps, des yeux écarquillés, contemple avec étonnement Moussaïa endormie. Puis la figure disparaît sans bruit, comme elle est venue. Le carillon sonne et chante longuement. On dirait que les heures fatiguées gravissent vers minuit une haute montagne. L'ascension est de plus en plus pénible. Elle glisse, retombe en arrière en gémissant et se remet à monter péniblement vers le noir sommet. On marche, on chuchote. Déjà, on attelle les chevaux à la sombre voiture dépourvue de lanterne.